Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici l'interview pour RDIWA, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, au studio, nous sommes en compagnie de Bastien Joussaume. Bonjour.
Bonjour.
Bastien Joussaume, donc tu es artiste plasticien et tu as un atelier qui s'intitule Chroma à côté de Sous.
Oui, tout à fait. Ouais, ouais. J'ai un espace de travail que j'ai appelé l'atelier Chroma, qui a organisé pendant pas mal de temps des expositions en lien avec l'univers artistique, mais pas que, dont notamment deux expositions en résonance avec la Biennale d'art contemporain de Lyon, dont la dernière exposition après laquelle j'ai un peu arrêté, qui s'appelait Isme, et qui en fait tentait d'amener les matières artistiques ailleurs et de surtout décloisonner les milieux. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui m'a intéressé, c'était vraiment, je dirais peut-être dans une dynamique, bien que ce soit un terme repris un peu à tort et travers, mais dans une dynamique permacole, à la fois décloisonner entre l'art, l'agriculture, les pratiques de bien-être alternatives, la botanique, tout ça, en créant un univers au travers d'expositions et d'ateliers qui était un peu une proposition d'outils pour faire avancer l'individu.
Comment tu t'en inspires de toutes ces activités, qu'on parle de l'agriculture, de l'art, et puis de la société peut-être aussi?
Oui, en fait, mon travail artistique, puisque c'est mon boulot au départ, je le mène au travers de l'observation de ma personne. Alors, pas du tout comme une observation narcissique, mais comme simplement m'étant rendu compte que j'étais finalement quelque part la matière que je pouvais le mieux observer et à même de mieux connaître. Donc, en fait, je suis parti vraiment de moi en tant qu'humain. Pour essayer de voir ce qui allait, ce qui n'allait pas, et quels étaient mes moyens de bouger ce que j'étais, en fait, en tant que personne. C'est-à-dire que si je développe un minimum, je considère que on est tous humains dans nos sociétés actuelles à fabriquer des personnages. C'est-à-dire que quand on est jeune, on a toutes les possibilités qui sont offertes, et plus on grandit, plus on émet des choix. Et plus on rétrécit le champ des possibles. Et en fait, on crée comme ça un personnage qu'on peut voir, hein, voilà, qui je suis moi, Yves en face de moi et lui-même. Chacun, on paraît être soi-même. Et en fait, ce personnage, il n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire qu'il est fabriqué avec beaucoup d'automatismes familiaux, des travers sociétaux, des choses qu'on a choisies sans vraiment les choisir. Mais voilà. Donc il y a quelque chose qui paraît faux au travers de l'individu. Et donc, je me suis attelé à essayer de trouver des outils pour un peu déconstruire ce personnage et essayer de se rapprocher de quelque chose de plus juste, en fait.
Comme tous les artistes, souvent, son travail tourne autour de l'autoportrait, hein, quel que soit ce qu'il représente. Toi, c'est un accès donc sur un autoportrait de ta personne au XXIe siècle.
Ouais, alors... On entend souvent par autoportrait, véritablement ça vient de la peinture, hein, donc du coup d'une peinture de soi-même ou plus récemment d'une photographie de soi-même, on est vraiment dans cette idée de l'autoportrait, sauf que je me suis moi finalement, par souci de libérer un peu les esprits et de créer de l'imaginaire, je me suis vraiment intéressé à tout ce qui est proche de l'abstraction. C'est-à-dire que je suis sorti de toute forme figurative. Et donc, il y a en ce moment, dans l'exposition qui est en cours de mon travail, effectivement, une œuvre qui est intitulée « Autoportrait ». Mais où on ne me reconnaît pas du tout. C'est-à-dire que c'est des matériaux de récupération totalement abstraits qui, finalement, bizarrement, de par la manipulation, et la juxtaposition, on arrive à éventuellement représenter une forme un peu humaine. Et ça m'a fait plaisir un peu aussi par jeu de me dire que ça pouvait être un autoportrait. Mais finalement, un autoportrait, encore une fois, comme je ne me prends pas moi comme Bastien Jousseau, comme personne narcissique, mais comme être humain, c'est un peu un autoportrait, enfin un portrait de l'humain quelque part. Hein, c'est un, voilà.
Une sensibilité.
Oui, oui, oui.
Actuellement, tu exposes à la galerie Éric Linard, qui se situe donc à la gare Adhémar. C'est une exposition qui se déroule jusqu'au 7 juillet et qui s'intitule donc, je la mets notée,
Volume et dérivés.
Voilà, volume et dérivés, merci. Et donc, qu'est-ce qu'on va y trouver, justement, cette approche que tu viens de décrire, par exemple ?
Oui, c'est-à-dire que je suis en train de parler de ma réflexion autour de mon travail artistique. Et finalement, mon travail artistique est en lien direct avec mon quotidien, finalement ma vie de tous les jours. Et je ne dissocie pas du tout l'un de l'autre. Je vois souvent, sans critiquer du tout, hein, mais je vois souvent des artistes qui ont des positions artistiques assez fortes et puis qui, finalement, dans leur vie, vont pas être à l'opposé, mais finalement, c'est tout autre chose. Alors que pour moi, finalement, tout est lié. C'est pour ça que j'essaie de faire le lien avec des matières comme l'agriculture ou la méditation ou des choses comme ça qui sont vraiment des outils qu'on peut ou des choses qui font partie de notre vie de tous les jours, de l'alimentation et tout ça. Voilà. Pour en revenir à l'exposition, c'est vrai que, en fait, de ce que je disais de la formation de notre personnage, ce personnage est formé par une succession de choix. Et on voit à l'heure actuelle dans nos sociétés que finalement, on tente de nous faire croire que notre liberté vient des choix qu'on a. C'est-à-dire que finalement, on considère que parce qu'on peut choisir la couleur de notre voiture, la manière de s'habiller, la musique qu'on écoute, je donne des choses assez basiques mais évidentes aussi, finalement, on est ce qu'on est. Et on existe au travers de ça. Et c'est assez effarant de se rendre compte que tout le monde, que ce soit les riches, les pauvres, les machins, les bidules, les trucs, on forme tous un personnage qui existe au travers de ses choix. Et que, à mon sens, il y a quelque chose de faux. C'est-à-dire que, en fait, c'est quelque chose qui paraît nourrir ce qu'on est, mais en fait, qui nourrit notre personnage, qui nourrit pas ce qu'on est en profondeur. Et donc, j'en suis venu à cette réflexion de me dire que ce qui était le plus libérateur, c'était de ne plus faire de choix. Donc finalement, à un moment donné, le seul choix à effectuer, c'est celui de ne plus en faire. C'est-à-dire que c'est totalement libérateur de, finalement, à un moment donné, plus choisir sa musique, plus choisir ses vêtements, plus choisir ceci, plus choisir cela. Alors beaucoup m'ont répondu que finalement, c'était un peu l'état d'une dictature. Sauf qu'à la différence, c'est que la dictature impose ça pour servir un système. À partir du moment où on fait nous-mêmes ce choix pour servir notre propre personne, c'est totalement, totalement différent. Et alors, on se retrouve dans ce positionnement de non-choix, on se retrouve finalement totalement libéré de son ego. C'est-à-dire qu'on arrête de faire masse. C'est-à-dire qu'on arrête de faire masse parce qu'on se rend compte que toute l'agressivité ambiante, tout ce qui génère finalement de la négativité est lié à la masse. C'est-à-dire que on établit notre petit personnage qu'on a réussi bon an mal an à former comme une véritable propriété. Et à partir du moment où finalement on rentre dans cette propriété, on devient finalement peut-être agressif ou tout de suite très en égo. Et donc très en masse, on forme une masse. Et à mon avis, la liberté passe par l'inverse, c'est-à-dire la liberté passe par le fait de se laisser totalement traverser. Pour en venir du coup à mon travail artistique, dans cette idée de faire le moins de choix possible, je pars souvent de formes, de couleurs, de matières, de graphismes, de choses comme ça, qui me sont données. Et j'essaie en fait en tant qu'artiste d'intervenir le moins possible dans la proposition finale. Alors à la fois, c'est des discours, c'est des idées, et forcément qu'on continue à faire 100 choix par minute. Ça crée beaucoup de paradoxes tout ça, et à la fois, À la fois, c'est comme un leitmotiv, c'est-à-dire qu'on tend vers, on essaie d'aller vers le, finalement le moins de choix possible. Alors, il y a par exemple, pour être plus, je dirais, concret, il y a par exemple dans l'exposition une œuvre qui s'appelle, qui est une suite en fait, hein, il y a plusieurs œuvres qui s'appellent comme ça, mais une œuvre qui s'appelle Radiographie, où je pars d'une nappe de famille qui doit dater des années 40-50. C'est une nappe quadrillée, un peu comme on pourrait imaginer un torchon, où il y a un graphisme donc quadrillé très symétrique, qui est donc avec les couleurs primaires et du noir. On retrouve les couleurs de Mondrian. Et du coup, cette nappe, en fait, m'apporte son format, sa matière, sa couleur, son graphisme. De cette nappe, la seule chose que je fais moi, c'est que je la, c'est pour cette raison que ça s'appelle radiographie, je la rétroéclaire, c'est-à-dire que je fais un caisson lumineux qui rétroéclaire cette nappe. Et ce qui m'intéresse dans ce travail-là, c'est que par rapport à cette formation, encore une fois, de notre propre personnage, je vais partir de matières anciennes qui, pour la plupart, ont appartenu à ma famille. Et je vais les radiographier, comme on pourrait aller à l'hosto sur une radiographie d'un os ou tout ça, pour voir finalement qu'est-ce qui transpire de ce patrimoine familial que je porte en moi. C'est un peu tout ça. Donc c'est vraiment, à la fois mon travail s'effectue avec le moins de choix possible, et à la fois toujours dans cette dynamique d'interroger la personne dans un phénomène de déconstruction de soi-même et de reconstruction. Parce qu'il est très facile, en fait, à mon sens, de déconstruire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on bousille tout. Hein, on dit, bon, allez, je casse tout. Ça, c'est relativement simple à faire. C'est beaucoup plus difficile par la suite de reconstruire. C'est-à-dire, à un moment donné, quand on a fini de déconstruire, ou plus ou moins, on n'est jamais sûr de rien, mais on se retrouve dans un vaste champ sans barrière et on se retrouve un peu paumé, quoi. Et on se dit à ce moment-là, OK, ben, en fait, la liberté, elle s'effectue aussi par rapport à des repères qui sont en place. Elle ne s'effectue pas non plus totalement dans le néant. Et alors, du coup, on remet des barrières en place, quoi, voilà. Et donc, c'est pour ça, si vous allez voir l'exposition, que vous noterez que mon travail est effectué avec beaucoup de matériaux anciens qui ont, comme je disais, leur forme, leur couleur, leur matière, beaucoup de céramique ancienne, et à la fois qui... voilà, donc ces matériaux, ils sont là parce que je n'ai pas de choix à faire quasiment sur eux-mêmes et parce qu'ils portent en eux-mêmes ce tronc commun un peu historique qu'on porte tous en nous. Voilà.
Je reviens sur cette pièce que tu citais avec cette nappe. Elle s'intitule comment, celle-ci ?
Alors, du coup, c'est ce que je disais, elle s'appelle Radiographie. Radiographie avec cette notion de radiographier, donc un caisson lumineux avec ses LED à l'intérieur, dans l'idée de radiographier le passé familial. Alors, je travaille avec des nappes, je travaille avec des mouchoirs, je travaille avec des draps, je travaille avec un tas de tissus anciens qui portent beaucoup d'eux-mêmes. J'ai travaillé avec des vieilles, donc, comme je disais, des céramiques anciennes, des vieux miroirs, des vieux papiers, des choses comme ça. Et j'aime en fait confronter ces vieux matériaux avec des matériaux industriels qui, eux, sont finalement, portent une totale, ou quasiment totale, si on met de côté, par exemple, l'écologie, mais portent une neutralité au niveau de la personne. C'est-à-dire que finalement, c'est un matériau qui ne m'appartient pas, qui appartient à personne, qui vient de la société. Et j'aime cette confrontation entre finalement des matériaux qui sont très chargés et des matériaux qui sont très neutres. Et voir quelle dynamique ça engendre. Voilà.
Cette pièce, Radiographie, elle a été conçue pour être exposée ou alors elle existe en tant que telle et d'être particulièrement peut-être... Enfin, et de se retrouver chez un particulier.
Alors, deux questions en une, Yves. Du coup, il y a si elle a été conçue pour l'expo ou si elle est issue d'un travail... que je poursuis. En fait, dans le cadre d'une exposition, je dirais qu'on a à la base notre travail qu'on fait régulièrement avec des séries qu'on continue. Et ce travail, à un moment donné, va se retrouver dans un lieu d'exposition. Travaillant beaucoup sur des formes concrètes, je ne peux pas être insensible au lieu qui va accueillir les œuvres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je fais attention aux lignes, aux perspectives, à la lumière. Et donc, le lieu va aussi, par moment, je dirais pas dans la totalité, mais par moment, amener à créer telle ou telle pièce. Donc, en l'occurrence, la radiographie dont on parlait n'a pas été créée pour l'exposition. Elle a été créée pour l'exposition, c'est-à-dire qu'elle n'existait pas avant. Donc, dans la production faite pour l'exposition, elle a été réalisée, mais elle n'a pas été réalisée en pensant véritablement à l'espace qui allait l'accueillir. Elle fait partie d'un processus général de création que je continue, des radiographies, il y a toute une série.
Alors, juste avant de continuer, on peut parler de concept. Donc, est-ce qu'un concept, donc une idée, peut être déjà mise sur papier, par écrit, dans la mesure de ce qu'elle sera en réalité? Et est-ce que, justement, la pièce comme radiographie n'est pas une des résultantes ou une des possibilités d'un concept que tu cherches à développer?
Alors, la notion de concept, du coup, a été quelque part accentuée par ce qu'on appelle l'art conceptuel. Donc, il y a deux choses qui sont un peu similaires, à la fois différentes. Je dirais qu'au niveau de la créativité, la création, en fait, c'est on part d'une idée, on va vers une production ou une œuvre, ou on part d'une matière et on va vers l'idée. En fait, pour moi, il y a souvent des allers-retours entre l'idée, la matière et l'œuvre. C'est-à-dire que je ne favorise pas plus l'un que l'autre. C'est-à-dire que des fois, je vais avoir des idées et je vais devoir les réaliser. Et je vais chercher les matières qu'il y a pour la réaliser. Et des fois, je vais avoir affaire à une matière, je vais réaliser quelque chose et je vais essayer de comprendre, moi, pourquoi ça a été fait et comment ce qui a été fait à partir de la matière vient s'intégrer dans la dynamique générale de réflexion de mon travail. C'est-à-dire que je n'ai pas un travail conceptuel dans le sens où le travail conceptuel va peut-être être conceptuel par rapport à un travail donné. J'ai plutôt, comme je l'explique depuis tout à l'heure par rapport à l'individu et au personnage, une dynamique générale de réflexion qui porte mon travail plastique et dans lequel je fais des allers-retours entre l'avancée de mes idées et la matière que je rencontre. Voilà. Pour répondre simplement, Yves, à la deuxième question que tu posais tout à l'heure dans une, au niveau de la finalité d'une œuvre et le fait qu'elle soit accrochée ou pas chez un particulier, on se pose, en tout cas je me pose moi en tant qu'artiste, la question de l'art et de à quoi ça sert finalement. Hein. Est-ce que ça a simplement une vocation décorative? Ou est-ce que ça cherche à aller plus loin? Alors, vocation décorative, pourquoi pas, puisque j'en viens à beaucoup m'interroger sur le quotidien et sur la valeur des objets qu'on fréquente tous les jours. Donc ça a un impact, quelque part. Un objet décoratif peut avoir un impact. Au-delà de ça, je pense que ça va nettement plus loin que la décoration. C'est absolument, pour moi, du coup, si c'est quelque chose qui existe, ça peut pas être une finalité. Voilà. C'est important qu'il y ait, je dirais, à mon sens, encore une proposition plastique et esthétique qui peut être liée à la décoration et qui peut être une porte d'entrée pour comprendre l'œuvre. Au-delà de ça, l'œuvre va forcément plus loin. Voilà. C'est, si tu veux, dans l'exposition. Dans l'exposition qui est en place, encore une fois, je parlais d'outils pour essayer de changer qui on est, un véritable outil pour réussir à se déconstruire et se reconstruire. Et ce qui se passe par rapport au travail en place en ce moment, c'est qu'il amène finalement, par rapport au retour que j'ai, énormément de gaieté. Donc les gens vont voir l'exposition, ils ressortent de l'exposition, Et la plupart sourient et sont gays. Et pour moi, il y a quelque chose de gagné. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour amuser, mais à un moment donné, amener de la gaieté, amener de la légèreté, je trouve que c'est finalement peut-être relativement rare à l'heure actuelle. Et ça me fait du bien, le retour me fait du bien. Donc il y a quelque chose finalement de positif, d'un échange positif qui a lieu, de ce que j'ai pu donner en tant qu'artiste, de ce que les gens en ont vu et de ce qu'ils me renvoient. Voilà. Sachant que au départ, j'ai pas essayé de faire quelque chose de gay. Voilà. J'ai fait une œuvre avec les matériaux que j'avais par rapport à la dynamique de réflexion que j'expliquais. Et il se trouve que cette dynamique de production que j'ai eue par rapport aux années passées aussi de travail derrière, ça amène ses couleurs, ça amène ses matériaux et ça amène cette gaieté. Et du coup, ça me ravit, moi aussi, en tant que personne, par rapport au cheminement de déconstruction et construction de moi-même, dans le sens où, au départ, je suis peut-être quelqu'un de plus, entre guillemets, « dark », et à un moment donné, je bosse sur moi-même. Je bosse sur moi-même au travers de mon travail artistique, mais avec les outils qu'on spécifiait tout à l'heure, avec l'agriculture, avec l'alimentation, avec la méditation. Et en fait, finalement, le travail produit sans véritablement être en conscience de ce qui se fait, à un moment donné, mais qui est exposé, dont on a les retours, m'amène à me dire t'as réussi à bouger qui tu étais. Et finalement, c'est ce que je souhaite un peu à chacun d'entre nous, c'est qu'à un moment donné, on sorte de son propre personnage et qu'on remette notre personne en jeu. Mais quelque part, par fun aussi, quoi. C'est à un moment donné, on se dise, je ne suis plus une propriété fermée avec ce que j'ai construit, verrouillé, avec mes choix et machin et trucs, et qu'on amène de la légèreté dans son personnage et qu'on se dise, ok, allez, je rebalance tout en jeu et puis on va voir ce qui se passe. Comme je disais tout à l'heure, je me laisse traverser. Voilà.
À titre d'exemple, un peu peut-être tiré par les cheveux, mais c'est comme si on pouvait comparer Marcel Duchamp et Bernard Buffet dans leur carrière. Le premier étant très hétéroclite dans son moyen d'expression, comme Max Ernst aussi. Il y avait beaucoup d'artistes du surréalisme qui touchaient à tout. Et plutôt un artiste peintre qui s'est trouvé une sorte d'écriture et qui s'y tient jusqu'à dans toute sa carrière.
Oui, tout à fait. Alors, c'est toujours difficile de donner des références parce qu'il y a beaucoup de mélanges et je me méfie quelque part, moi, des références aussi artistiques comme les références musicales, en fait, qui sont souvent un peu enfermantes comme ça. C'est vrai que par rapport à... On reprend l'exemple de radiographie avec cette nappe et ce quadrillage. Finalement, oui, on peut considérer qu'on est entre un Mondrian et un Duchamp. C'est-à-dire qu'à la fois, la nappe est un ready-made et à la fois, elle reprend un graphisme qui est propre à Mondrian, sachant qu'il amène ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est totalement symétrique, alors que Mondrian était beaucoup dans la symétrie. Il y a beaucoup aussi dans mon travail de référence à l'arte povera, il y a beaucoup de références au minimalisme, il y a beaucoup de références. Finalement, je m'en rends compte aussi peut-être à quelque chose d'assez proche de l'art brut. Enfin, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Alors après, trouver des termes, c'est difficile. On a évoqué tout à l'heure un terme qui me plaît bien, c'est le constructivisme pop, par exemple. Donc du coup, on a justement une radicalité constructiviste. Et un fun complet coloré pop, donc ça c'est chouette. Il y a récemment des expositions qui ont été menées au Luxembourg et en Occitan avec cette nouvelle notion qui arrive d'abstraction narrative. Finalement, ça fait je sais pas combien d'années, plusieurs dizaines d'années maintenant qu'on bouffe, excusez-moi le terme, cette notion d'art contemporain. Où finalement, à l'heure actuelle, ça veut plus dire grand-chose, dans le sens où on y retrouve tout et n'importe quoi, et que ça définit véritablement rien. Donc je pense que c'est important à l'heure actuelle de retrouver peut-être des termes pour plus spécifier, redéfinir des élans, restructurer un peu tout ça, et plus être dans ce grand magma, quoi, voilà.
Je reviens sur le grand verre de Duchamp, toujours, avec cette structure qui je pense, sans elle, l'œuvre n'existerait pas, puisqu'elle supporte ce verre. Et je pensais à ta pièce Radiographie, où cette nappe est tendue apparemment sur un support avec des LED à l'arrière. Oui. Est-ce qu'on peut comparer, est-ce que ce support de l'œuvre en elle-même a sa particularité et même une certaine créativité ?
Ben, écoute, comme je disais, moi, enfin,
tu remarquais quand même que c'était de la neutralité industrielle qui était utilisée pour ce support. Mais est-ce que c'est véritablement neutre?
Oui, le procédé technique m'importe peu. En fait, enfin, à la fois m'importe peu, à la fois il est présent. Ça pourrait être du LED ou dans l'art contemporain, enfin dans l'art moderne, il y a eu beaucoup de néons. En fait, alors là pour le coup, le LED sert vraiment de moyen technique pour arriver à cette notion de radiographie. C'est vrai que la réflexion est pour moi, est souvent menée et tente d'être menée jusqu'au bout de ce que propose l'œuvre au final, et donc même à un moment donné du support de l'œuvre. C'est-à-dire que est-ce que le LED qui est branché sur une prise électrique, se poser la question de si la prise électrique fait partie de l'œuvre ou pas. À un moment donné, je dirais qu'elle fait partie de l'œuvre de manière plastique, elle ne fait pas partie de l'œuvre de manière idéologique. C'est-à-dire que plastiquement, effectivement, la prise est présente. Au niveau de l'idée, ce n'est pas forcément ça qui définit l'œuvre et qui mène un grand intérêt.
On va revenir sur cette exposition et particulièrement à la galerie Éric Linard. Donc, tu me citais avant l'émission qu'il y avait une partie dédiée à l'édition d'art. Alors, est-ce qu'on peut présenter un petit peu cette maison d'édition ?
Alors écoute, moi je suis pas spécialiste, je travaille avec Éric Linard depuis quelques années maintenant. C'est ma première exposition personnelle dans l'espace, c'est un espace qui est très grand, qui fait un peu plus de 350 mètres carrés. Je suis seul à l'intérieur, donc c'est un très beau lieu, c'est une ancienne filature, donc un vieux bâtiment qui a été réhabilité avec des moyens plutôt contemporains, des fers un peu noirs. Et au-delà de ce bâtiment ancien, Éric Linard a fait construire tout un hangar de création d'édition, puisque ça fait plus de 50 ans maintenant qu'il est, lui, dans l'édition d'œuvres d'art, qu'il est très impliqué dans le milieu artistique national et international. Et donc il a dans ce hangar toute chaîne de production concernant l'édition, donc notamment la sérigraphie. Alors son travail d'éditeur l'a amené à finalement se servir de machines technologiques très poussées, et il utilise ce qui peut être décrié dans le milieu, mais que je trouve moi quand même intéressant. Il utilise, lui, la digigraphie, qui est en fait une impression numérique de très très haute qualité, avec des encres spéciales dédiées, et qui donne des tirages, qui donne des tirages d'une très très belle profondeur et qualité. Donc voilà, ouais, c'est la galerie, elle est située dans un lieu qui s'appelle le Val des Nymphes, qui est un peu en contrebas de la gare d'Adémar. Là où il y avait de l'eau, hein, pour la filature, à côté d'une petite chapelle qui porte le nom du Val des Nymphes, la chapelle du Val des Nymphes aussi, avec un étang. Il y a quelque chose d'assez magique, voilà. C'est au-delà des travaux artistiques et de l'édition, purement historiquement au niveau du patrimoine et de l'architecture, c'est un lieu déjà très fort, quoi.
Sébastien Joussoum, je t'ai rencontré il y a environ 6 ans à l'ouverture de Chroma. Tu étais venu d'ailleurs nous en parler à côté de Sous. Qu'est devenu ce lieu depuis son ouverture?
Alors ce lieu, à la base, ce lieu est mon atelier de travail qu'à un moment donné, j'ai dynamisé en espace d'exposition, comme je le racontais tout à l'heure avec Isme, qui était en résonance avec la Biennale d'art contemporain de Lyon. J'ai fait beaucoup d'autres, peut-être pas tant que ça, mais j'ai fait d'autres choses, dont une plaquette regroupant de ce que j'avais appelé les lieux d'art actifs sur le territoire, donc en prenant les lieux associatifs ou privés qui proposaient des expositions de manière régulière, sans choix esthétique du tout, mais à partir du moment où les lieux avaient des propositions récurrentes, les mettre sur la plaquette pour justement créer un dynamisme au sein d'un territoire, sachant que l'atelier était situé à Sous et que Sous se situe entre Dieu Fi et Cré, et que ces deux territoires finalement qui se regardent pas trop finalement. Et la vallée du Roubion qui est entre Bourdeau et Sous est au milieu, assez attractive, mais finalement moi je me retrouvais entre les deux et fréquentais les deux. Et à un moment donné, je me suis dit tiens, ça serait intéressant d'essayer de faire un pont et de créer un dynamisme artistique avec ce qui existe sur les deux territoires. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait au travers de l'atelier Chroma. J'ai fait quelques expositions. Et puis, en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'on est rattrapé par le quotidien et que l'atelier, à la base, c'est mon espace, du coup, de travail. À chaque fois que j'organisais quelque chose, il fallait tout que je déménage. C'était assez fastidieux. Ça demandait pas mal d'énergie aussi, puisque je n'étais pas véritablement en association, mais je portais ça un peu... ou presque tout seul, et à un moment donné, j'ai plus l'énergie ni le temps de le faire, parce que j'avais à bosser, moi, en tant que plasticien à mon atelier, et donc j'ai un peu arrêté de faire des propositions à l'atelier. On a par ailleurs, avec ma compagne, développé des résidences artistiques, puisqu'elle travaille sur la liberté d'expression, et donc sur l'accueil d'artistes étrangers en danger. Donc, des artistes qui vivent dans des pays, entre guillemets, pour schématiser, dictatoriaux, et qui se retrouvent embêtés de par leur pratique artistique et la critique qu'ils peuvent faire du gouvernement en place. Donc, c'est des artistes qui demandent à être résidents et accueillis. Donc on a monté ça. Je travaille par ailleurs aussi dans la commission Leader. Les commissions Leader sont des subventions européennes qui sont allouées à des territoires. Et les territoires choisissent d'allouer ces subventions à telle et telle chose. Et donc c'est sur les territoires plus bas, du Crétois, 3CPS, tout ça. Et dans les dynamiques impliquées par le leader dans ces territoires, il y avait cette dynamique touristique. Moi, j'ai été appelé par rapport à ce que j'avais fait à l'atelier Chroma. Et j'essaie justement d'insuffler dans ces réunions l'idée qui fait son chemin, puisqu'il y a, il y a eu des choses organisées par le département récemment. Donc l'idée que la culture est un vrai levier économique pour les territoires, sachant que voilà, on en revient à de l'économie, à de l'argent, parce que c'est ce qui fait le nerf de la guerre pour beaucoup de politiques. Voilà. Donc c'est pour moi très réducteur par rapport à ce que peut amener la culture et l'art, mais en tout cas pour le faire comprendre aux politiques et aux territoires, et qui est aussi une réalité, c'est que la culture est un véritable levier économique pour une commune, un département, une communauté de communes, peu importe. Et finalement, le terme de culture reste relativement abstrait pour la plupart. L'artisanat d'art, par contre, est très compris. Je veux dire, on comprend le fait qu'on fabrique quelque chose, on puisse le vendre. L'idée qu'organiser une exposition ou un événement gratuit puisse rapporter des dividendes sur un territoire est beaucoup moins mal perçue, quoi. Enfin, n'est pas compris, quoi. Du coup, entendu. Et là, là, il y a une espèce de, voilà, de prise de conscience qui se fait que, au travers de tout ce qu'on entend, hein, au travers des exemples qu'on a entendus récurrents, comme quoi, comment dire, le budget, enfin pas le budget, mais ce que rapportait la culture en France était 5 fois supérieur à ce que rapportait par exemple l'automobile. Donc c'est énorme. Et au-delà de l'économie, après pour moi, et j'en parle aussi, j'essaie de le faire valoir, ça amène... je sais pas, une ouverture d'esprit, une compréhension du monde, un partage, plein de choses. Alors voilà, ça dépend aussi comment sont amenées les choses. C'est vrai que l'art contemporain, depuis quelques décennies, c'est assez isolé finalement du monde, est devenu une matière un peu, pour la plupart, pénible. Et c'est vrai qu'il faut, il faut s'y atteler pour la comprendre. Mais en fait, on est en train de revenir sur ces notions, et notamment... en évitant que des projets tout faits soient parachutés sur des territoires, sans lien aucun avec les gens ou les associations qui sont présentes, mais que ce soit vraiment des projets co-construits avec des dynamiques avec des vraies dynamiques de synergie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est en décloisonnant, comme je le disais au départ, en décloisonnant, en amenant... l'agriculture a fréquenté l'architecture, a fréquenté l'art, a fréquenté la botanique, qu'il y a quelque chose qui arrive. Parce que sur un territoire, il y a plusieurs matières qui sont emblématiques. On a pour beaucoup ici l'aromathérapie, le fait de travailler avec les huiles essentielles, etc., etc. Ça peut tout à fait être mis en lien avec autre chose. Et à ce moment-là, on est dans de l'échange, on est dans du partage. On est dans qu'est-ce qui peut être articulé avec tout ça. Et à mon sens, c'est là où ça arrive. Sinon, la botanique reste fréquentée par les botanistes, l'art reste fréquenté par les gens de la culture, etc., etc. Là, on commence à tout mélanger, à tout brasser, à essayer d'avoir des propositions intéressantes qui font qu'on a... qui font qu'on a quelque chose de cohérent, d'élargi et de dense à proposer. Voilà.
Donc cette démarche, elle incite pour ta part à une exploration de territoire et d'aller à la rencontre des acteurs locaux. C'est une chose que tu pratiques donc.
Alors après, du coup, on est en train de réfléchir à la mise en place d'une proposition comme ça, justement, une proposition d'exposition qui serait en lien avec beaucoup d'autres secteurs. Ça va peut-être voir le jour prochainement. On est en train de rencontrer justement les différents acteurs possibles. Pour une première édition, je dirais que, et de par là où je vis, je suis surtout en connaissance de mon propre milieu, c'est-à-dire plus ou moins large, mais effectivement des acteurs possibles et des partenaires possibles, envisageables sur un territoire donné qui est finalement restreint par rapport au champ des possibles. Sachant que cette proposition d'exposition peut, après, c'est aussi plus facile pour la première édition de travailler avec un territoire connu, et pour des prochaines éditions, si elles ont lieu, déplacer la proposition pour que ce soit une proposition qui circule sur le territoire et qui puisse à chaque fois dynamiser des lieux différents. Mais... alors, pour répondre plus précisément à ta question encore, Yves, on est du coup effectivement dans la rencontre à la fois des acteurs locaux, que ce soit de l'hébergement, de la mobilité douce, de l'agriculture, etc., etc., et à la fois à tisser des partenariats avec le musée d'art contemporain de Lyon, l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne, la Biennale de design de Saint-Étienne, des choses beaucoup plus larges, parce qu'il me semble important finalement pour qu'un événement comme celui-là puisse fonctionner, qu'on réussisse à mêler le local quelque part à l'international, c'est-à-dire ou au national. C'est-à-dire qu'il faut à la fois favoriser la créativité locale, bosser avec le local, c'est hyper important, être en connaissance du local, et à la fois ce local, il faut le nourrir par des apports extérieurs qui sont, eux, peut-être plus connectés aussi avec plus loin. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à tisser du lien. Que ce soit dans un sens ou dans un autre, ça, pour moi, ça ne fonctionne pas. Si on fait une proposition qui n'est que locale, on va se retrouver avec toujours la même fréquentation et les mêmes personnes qui viennent. Donc, c'est déjà bien parce que ça crée quelque chose sur le territoire. Mais à mon avis, ce n'est pas suffisant. Et à contrepartie, si on parachute quelque chose qui vient de, je ne sais pas, je vais dire un exemple bateau, mais de Paris à Creil, à un moment donné, ça rime à rien parce que personne ne connaît le territoire. Ils ont leur truc tout près qui tombe dessus et puis ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment réussir à tisser, à mon avis, des liens entre faire valoir le territoire, le local au niveau de son savoir-faire artistique, artisanal, agricole, etc., etc., à des propositions plus loin, quoi, plus lointaines, qui correspondent au département, à la région et même plus loin. On voit qu'à l'heure actuelle, le territoire Biovallée, enfin Vallée de la Drôme et un peu ailleurs dans la Drôme, est très fréquenté par Lyon, Genève, Grenoble, Saint-Étienne. On voit ce qui se passe. Donc, à un moment donné, c'est important de considérer aussi cette dimension-là pour créer, encore une fois, c'est créer du dynamisme d'échange culturel, intellectuel, voilà.
Et pour ça, donc, tu passes par ce porteur de projet qui est Leader.
Au niveau des financements possibles, il y a beaucoup de festivals ou de propositions qui je vois, revendiquent le fait de ne pas faire appel à des subventions ou de l'institution ou ce genre de choses. Je comprends tout à fait. Je vois ce que ça peut amener. Et à la fois, moi, j'ai tendance à penser que c'est en travaillant justement avec les politiques, avec les institutions, avec les gens qui sont un peu aux manettes, en échangeant des idées, en essayant de faire valoir des choses, qu'on fait aussi bouger les mentalités. Donc l'intérêt, au-delà de l'argent que ça peut amener sur le projet, c'est le fait de, à un moment donné, connecter avec ce milieu qui est un peu étanche.
Très réglementé
et qui a pas notion de ce qui se passe qui est quelque part pas finalement tout à fait connecté avec le terrain, quoi, voilà.
Et ça, tu penses que c'est possible par expérience?
Moi, je pense que c'est une tâche qui est un peu rude, qui est un peu ingrate, mais je trouve que c'est toujours bien, quoi, d'échanger, quoi. À un moment donné, quels que soient les gens, quels que soient les clivages, quels que soient les niveaux sociaux, quels que soient n'importe quoi, à un moment donné, c'est ça qui fait la richesse. Le voyage, il est là. Le voyage, il est pas dans je me mets toujours là où je suis bien et qui correspond à mon personnage. Le voyage, il est je sors de ma case, je remets ce que je suis en jeu, et puis à un moment donné, allez, moi, je vais me taper à dimanche, qu'est-ce que je fais? Je vais me taper un repas avec des chasseurs. Ok. Waouh! Tu vois, à un moment donné, ça semble complètement aberrant. Et hop, je bascule dans une autre dimension parce que j'ai pas l'habitude de le faire. Et voilà. Et qu'est-ce que ça brasse? Et qu'est-ce que ça amène? Et qu'est-ce que j'arrive à amener? Alors voilà, les politiques, c'est pas non plus forcément tous des chasseurs. Mais on arrive à de l'échange. On arrive à savoir quels sont les enjeux d'un territoire, quelles sont leurs idées, quelles sont les idées du côté du terrain. Et je crois que c'est toujours, à mon sens, porteur. Mais encore une fois, par rapport à l'ego, par rapport au personnage, par rapport à ce qu'on se construit, à notre masse, il faut pas arriver en sachant tout et en considérant les autres comme ne sachant rien. C'est-à-dire, à un moment donné, ils vont nous apprendre autant que nous, on va leur apprendre. C'est véritablement dans une dynamique d'échange et de compréhension de comment fonctionne un système qu'on ne côtoie pas au quotidien, quoi. Voilà. Donc voilà, pour répondre à ta question de subvention, donc purement au niveau de monter un projet de ce type et éventuellement réussir à avoir quelques sous, effectivement, il y a Leader qui peut ou pas, suivant les dynamiques qu'ont pris les territoires, correspondre à ça. Et puis après, les classiques, départements et régions, sachant que c'est très, très, très formaté. T'es à un moment donné, il laisse peu la place à ce qui va se produire de nous-mêmes, c'est-à-dire vraiment à la proposition qui va émerger, naturellement de quelqu'un ou d'une association, mais il va falloir rentrer dans des cases. Donc rentrer dans des cases, ça veut dire modifier un peu la proposition pour réussir à avoir un peu de sous si on le souhaite. Voilà. Bon, ça, tout le monde le sait, mais je trouve que c'est important de... Je trouve que c'est important de continuer à échanger, à débattre, à partager, à faire valoir. Même si des fois, je le disais, c'est rude. Mais ouais.
Bastien, l'heure étant à l'approche de la fin, je voudrais savoir, tu as un site internet toujours ?
Alors j'ai toujours mon site, ouais, www.bastienjoussaume.com.
Et au niveau de l'actualité, il y a des renseignements sur ce site par rapport à ce que tu proposeras prochainement ?
Oui, on voit ce qui va, ce qui a été fait, ce qui va être également proposé. Il y a également le site de l'atelier, où il y aura peut-être prochainement des infos sur des propositions éventuelles. Pour l'instant, pas, mais à voir dans le futur, quoi. Voilà.
Eh bien, Bastien, je te souhaite une bonne soirée et puis à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Interview.
Okay, the bird.
Interview. L'interview du jour.